Il y a du droit, Michel Burgon.
Bonjour. Pour un gouvernement, l'emprunt d'État est un moyen de lever des fonds. Les particuliers prêtent leur argent à l'État contre un taux d'intérêt et une garantie de remboursement. Les emprunts d'État se déclinent en plusieurs types selon la durée, le taux d'intérêt et les conditions associées. Les obligations à taux fixe, à taux variable ou indexées sur l'inflation, ce sont des mécanismes qui servent à séduire les souscripteurs ou à atténuer les critiques en cas de souscription forcée. Les emprunts d'État ont souvent été utilisés pour financer des guerres ou pour stabiliser les finances publiques. L'Angleterre et la France ont emprunté pour les croisades comme pendant la guerre de Cent Ans. Des emprunts forcés ont été instaurés pour financer les guerres révolutionnaires, comme l'emprunt de l'an 2 en 1793. Les emprunts de libération ont permis à la France de rembourser ses dettes après les guerres napoléoniennes. Et ils ont contribué, après la Seconde Guerre mondiale, à la reconstruction. Des campagnes de propagande massives ont été utilisées pour encourager les souscriptions à toutes les époques, aussi bien en distribuant des indulgences religieuses ou qu'en placardant les murs. On doit distinguer entre emprunts volontaires et forcés. Dès 1789, des emprunts volontaires ont été proposés pour mobiliser les citoyens autour de la cause révolutionnaire. Les montants espérés n'ont pas été atteints, car la confiance envers l'État était bien faible. En 1793, un emprunt alors forcé a été instauré pour soutenir l'effort de guerre contre l'Autriche. En parallèle, l'État a vendu des biens confisqués à la noblesse et au clergé. Les emprunts volontaires misaient donc sur le patriotisme des citoyens. Leur échec reflète le manque de confiance et d'adhésion à la Révolution. Les emprunts forcés obligeaient les citoyens les plus riches à prêter une partie de leur patrimoine. Leur efficacité permet aujourd'hui de mesurer la richesse de l'époque. Après la Seconde Guerre mondiale, la France a instauré un emprunt forcé pour stabiliser l'économie et lutter contre l'inflation. En 1983, sous Mitterrand, un autre emprunt forcé a été mis en place. Pendant la Première Guerre mondiale, la France n'a pas eu recours à des emprunts obligatoires au sens strict, mais à des emprunts volontaires, largement promus par des affiches de propagande patriotique. Chypre a pris des mesures drastiques en 2013. Une partie des dépôts bancaires des citoyens et étrangers a été convertie en un emprunt obligatoire. Pendant la crise économique, le gouvernement argentin a gelé des comptes bancaires pour empêcher une fuite massive des capitaux. En 1992, l'Italie a prélevé une taxe exceptionnelle de 0,6% sur tous les dépôts bancaires. Sans autorisation des épargnants, l'utilisation par l'État de l'épargne placée à long terme est souvent mise en œuvre en cas de crise. La loi Sapin 2, France, a permis de bloquer temporairement les rachats de certains produits d'épargne, comme les assurances-vie. Tout comme les articles 562 et suivants du Code monétaire et financier encadrent aujourd'hui les mesures de gel des avoirs en France des personnes ou entités visées par des sanctions internationales. Les gouvernements qui adoptent des mesures, comme les emprunts forcés, agissent donc souvent selon des logiques de proportionnalité. Ainsi, seuls les détenteurs de grandes ressources contribuent de manière significative, réduisant ainsi le nombre des mécontents. L'emprunt d'État est donc une recette fiscale toujours d'actualité, aussi efficace que l'impôt, mais sans emporter le nom. À la semaine prochaine.